Bonjour et bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Samuel. On parle de PNL, de programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, on va parler dans le fond de c'est quoi la PNL spécifiquement, d'exemples concrets de comment est-ce que l'être humain peut être programmable. On va parler de comprendre les croyances limitantes, d'où viennent nos croyances limitantes et de comment on fait pour se reprogrammer face à ces croyances-là qu'on a. Et ensuite de ça, on parle aussi de motivation et de discipline. On écoute ça. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Samuel. On va parler d'un sujet vraiment, vraiment intéressant, la programmation neurolinguistique. Comment ça va, Sam?
Ça va super bien, toi.
Crinqué pour faire un bon podcast, ouais, ça va bien.
Ouais, puis c'est un sujet en plus qui est un peu, pas touché, mais les gens savent pas trop c'est quoi. Puis comme tu disais tantôt, on parlait vite avant le podcast, c'est un sujet un peu alien pour bien du monde. Ouais. Fait qu'on va essayer de décortiquer ça du mieux possible.
Fait que la programmation neurolinguistique, je vais commencer avec le premier sujet. C'est quoi la programmation neurolinguistique? Tu sais, si on regarde en tant que tel, c'est une sphère de psychologie qui, habituellement, va être pas mal les plus hauts placés des grosses multinationales qui vont se faire former en PNL. La PNL, dans le fond, c'est, je lis la définition, en fait, que j'ai trouvée sur Internet, c'est une technique de communication qui s'intéresse à la relation entre les systèmes de pensée d'une personne, les actions et les comportements qu'elle va avoir. Je donne un exemple très, très simple de la PNL, parce que moi, la façon dont comment je l'interprète et comment je la pratique, c'est en psychologie. Un psychologue va s'intéresser à qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Fait qu'il va aller directement et spécifiquement à cet instant-là. La PNL s'intéresse pas nécessairement à ce que tu as vécu. Ça s'intéresse à qu'est-ce que tu as interprété et la façon dont comment tu vas agir le restant de ta vie face à ça. Fait que je vous explique en tant que tel quelques petits exemples ici en PNL pour que les gens viennent bien à comprendre. Programmation neurolinguistique, c'est des exemples concrets.
Je vais juste dire, tu sais, parce que juste pour finaliser ce que tu dis, c'est que l'interprétation, c'est qu'on peut vivre les deux la même situation exactement pareil, puis on l'interprète complètement à l'opposé.
Absolument.
Fait que c'est pas nécessairement la situation que tu vis, mais bien l'interprétation, comme tu as dit, qui peut être différente d'une personne à l'autre selon les choses que tu as déjà vécues, puis tes croyances, toute la
question. Absolument. Puis je vais en parler tantôt. Je vais donner un exemple vraiment concret. Puis tu sais, la PNL, littéralement, c'est chaque personne a une vision de la vie différente. Puis tu sais, le but premier aujourd'hui, c'est oui, on va parler de programmation neurolinguistique, de cet aspect très intéressant de la psychologie que, honnêtement, tout le monde devrait bien maîtriser. Mais on va aussi créer des liens avec l'alimentation et le pourquoi, dans le fond, vous devriez apprendre comment la PNL fonctionne et comment vous programmez vous-même pour réussir des processus comme de devenir un athlète, de mieux gérer vos finances, de réussir votre structure alimentaire ou quoi que ce soit. Fait que je vous montre un petit exemple un peu de ce qu'est la PNL et de comment le corps, comment l'être humain va percevoir ça. Je vous donne un bel exemple ici. Une jeune femme ou un jeune homme, exemple, de l'âge de 4 ans, 5 ans, qui est au parc à chien. Il est en train de s'amuser et c'est sa première expérience avec un chien. Il n'a jamais eu de chien dans sa famille, ses parents, marraines, dans sa famille, il n'y en a pas de chien. Fait que là, un moment donné, il s'en va au parc. Il y a un beau gros golden qui arrive en face de lui. Il prend la balle de tennis et il tire la balle. Fait que là, le golden est tout heureux. Il court après, l'enfant, il est super heureux, reprend la balle de la gueule du chien, retire la balle. Puis là, tu vois que l'enfant regarde sa mère en arrière puis il est mort de rire puis il triple. Là, il reprend encore la balle. Il tire la balle vraiment loin. Là, le chien revient une troisième fois. Quand il arrive pour reprendre la balle dans sa gueule, le chien lui mord le doigt. Il met le doigt complètement en sang. Puis là, l'enfant, il est sous le choc. Il regarde son doigt. Il y a du sang. Il y a mal. Ça bourdonne. Puis là, il se met à pleurer. Puis s'en va directement voir sa mère. Et à cet instant-là, c'est là que la programmation se crée. Comme tantôt j'ai précisé, la PNL ne s'intéresse pas à ce que tu as vécu. C'est la façon dont comment tu vas l'interpréter. Donc, la façon dont comment le ou la jeune peut interpréter une situation comme ça, c'est qu'il a perçu un chien comme étant super plaisant au début. Et si son expérience était arrêtée là sans se faire mordre, ben peut-être que ses parents auraient dit « Wow, il a donc bien du plaisir avec un chien. Hey, on pourrait y en acheter un. » Puis toute sa vie, l'expérience avec un chien aurait été super cool. Mais là, dans sa situation, il s'est fait mordre. Et la première expérience qu'il a vécue avec un chien a été extrêmement négatif, voire c'est de la peur et de la douleur. Fait que qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est que son système de programmation s'est mis en marche. Il a créé une programmation de chien est égal à dangereux et toute sa vie, jusqu'à l'âge de 20, 30, 40, 50 ans, cette personne-là va peut-être avoir tout le temps une programmation de « Wow, les chiens, c'est dangereux. Hey, dès qu'il y a un chien, il recule. » Puis dès l'instant qu'il y a une personne qui a un chien à son domicile, peut-être qu'il va avoir plus tendance à pas vouloir rentrer dans la maison. Puis toutes sortes de petites affaires de même. Pourquoi? Parce que dans un seul événement dans sa vie, il y a eu une mauvaise expérience et il y a eu une programmation, une façon de percevoir ça et tout le reste de sa vie, il enrichit ça.
Et on s'entend que tout ça, c'est 100% inconscient.
C'est inconscient. C'est les gens exactement. Ne sont pas conscients. Ouais. Moi, maintenant, puis c'est un peu la raison du pourquoi on vous fait ça aujourd'hui, ce podcast-là, c'est que dès l'instant où vous commencez à être conscient de comment fonctionne la programmation humaine, vous êtes capable de prendre le contrôle. On va en venir dans un sujet tantôt. Le deuxième exemple, ça, c'est vraiment un exemple concret et c'est un exemple parfait parce que je l'ai vécu littéralement avec une cliente récemment. Un bel exemple de PNL, un peu similaire à celle du chien. C'est une jeune femme. La jeune femme, c'est une de mes clientes. C'est une histoire vraie. Elle avait 14 ans, 15 ans à ce moment-là. 14, 15 ans. Première expérience de boisson avec toutes ses chums. Fait que là, il y avait le chalet d'une de ses amies. Tout le monde allait se rejoindre là-bas la fin de semaine. Puis c'était la première fois qu'elle allait se faire une beuverie. Fait que là, ses parents, ils ont permis d'amener une petite caisse de Smirnoff Ice. Fait que là, elle commence à s'en aller là-bas. Puis la bonne vieille Smirnoff Ice, je te vois. Puis là, il commence à boire, mais elle n'a jamais bu. Fait qu'elle prend une consommation. Un moment donné, elle en prend deux. Un moment donné, il y a une de ses amies qui sort des shooters. On prend des shooters. Puis un moment donné, il y a une table de beer pong qui commence à embarquer. Fait que là, elle commence à jouer au beer pong. Puis elle s'en rend pas compte parce qu'elle n'est pas conditionnée à ça et elle ne sait pas c'est quoi que ça va faire comme effet négatif. Mais elle a bu à peu près trois fois la quantité qu'elle aurait dû boire dans sa soirée pour être raisonnable, on va dire. Fait que là, elle s'est retrouvée devant toutes ses amies. Ses amis, eux autres, ils avaient bu beaucoup, mais il s'était pas rendu au même stade qu'elle. Et elle s'est rendue à aller vomir dans la salle de bain. Elle a passé toute sa première expérience d'alcool dans la salle de bain, dans le bol de toilette, en train de vomir. Toutes ses amies riaient d'elle. Littéralement, elle, le lendemain d'après, toutes ses amies ont trippé, se sont fait un beau déjeuner et restées couchées au lit. Après ça, le surlendemain, elle retournait à l'école. Ça allait vraiment pas. Elle était encore malade. Fait qu'elle, ça a été un 72 heures de calvaire. Et en plus de ça, rajoutez une semaine à deux semaines où elle s'est fait écœurer non-stop. Puis ça, c'est des systèmes que moi, je suis allé creuser. Je suis allé faire des effets entonnoirs puis je suis allé déterminer vraiment pourquoi elle a telle réaction maintenant dans sa vie quotidienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle, la première expérience qu'elle a eue avec l'alcool était tellement négative que pour elle, l'alcool n'est égal pas à plaisir, n'est égal pas à ça me détend à la fin d'un vendredi, exemple, à la fin d'une semaine de travail. L'alcool est égal à un danger, est égal à quelque chose qui me fait du mal. Fait que là, elle, au niveau social, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de prendre un verre et ça l'affecte avec ses amis parce qu'elle est juste incapable. C'est plus fort qu'elle. C'est une programmation qui est ancrée. Fait que c'était vraiment un bel exemple, mais à quel point, non-stop, tout au long de notre vie, on a des expériences vécues et on a des systèmes de programmation qui viennent à se créer. Et je pense que c'est le sujet, justement, que tu veux embarquer à l'intérieur, mais en soi, c'est de comprendre que toute notre vie en tant qu'être humain, on est un ensemble de plein de programmes. On a été programmé autant à l'école, tu vas en parler tantôt, que de plein de différentes expériences vécues. Fait que si, exemple, toute ta vie, tu n'as jamais fait d'activité physique, c'est difficile après ça de te programmer à faire d'activité physique. Mais si tu as eu un vélo à l'âge de 3 ans puis que tu as toujours bougé non-stop, ben c'est sûr et certain que ça va être beaucoup plus facile pour toi. Fait que, tu sais, c'est de comprendre aussi qu'au niveau de l'alimentation, si je veux aller relier ça à l'alimentation, parce que veux, veux pas, toi et moi, on fait des processus de perte de poids, on fait de la nutrithérapie, beaucoup de programmation chez nos clients qu'on voit régulièrement et qu'on passe notre temps à déprogrammer avec eux, parce que c'est des choses qu'on fait ici à la clinique, de la déprogrammation alimentaire en tant que telle ou de la reprogrammation. Oui, exact. On reprogramme les gens dans une nouvelle sphère. Mais sucre est égal à récompense. Très souvent, je vois cette programmation-là. Les gens, dès l'instant qu'ils ont une mauvaise nouvelle, dès l'instant qu'ils ont quelque chose à célébrer, c'est le sucre, c'est de la malbouffe qu'ils vont le faire, qu'ils vont aller se combler avec. Deuxièmement, mal nourrir est égal à plaisir. C'est fou, mais dès l'instant que vous allez avec votre chum, exemple au hockey, comme on avait parlé dans un autre podcast, il y a 10 Roman Coke, il y a des chips, il y a de la pizza, il y a de la poutine. On dirait que le plaisir, il y a toujours de la malbouffe interreliée à ça. Fait que tu sais, les gens, leur premier système qu'ils vont avoir, c'est dès l'instant qu'ils n'ont pas de plaisir, ils vont vouloir aller manger ce plaisir-là. Ça, c'est des programmes qu'on voit beaucoup, beaucoup. Fait que tu sais, il faut réussir à reprogrammer dans l'alimentation l'écosystème dans lequel qu'on vit actuellement. Qui nous amène à avoir un surpoids? Qui nous amène à avoir des troubles de santé? Qui nous amène à ne pas être heureux et accompli ou à nous sentir mal? Et à se diriger vers un autre écosystème qui va avoir un système de programmation complètement différent, de penser différemment, de changer les patterns qu'on a et surtout les croyances qu'on a acquises depuis qu'on est jeune pour des nouvelles qui vont nous permettre d'avancer plus dans la vie. Fait que Sam, je pense que tu voulais parler justement du sujet de comment comprendre les croyances limitantes, et etc.
Fait que oui, mais tu sais, on s'entend que c'est un sujet assez large, puis pendant que tu parlais, ça me popait des affaires, fait que là, je prenais des notes.
Vas-y.
Puis j'ai comme pris trois notes que j'avais pas pensé, mais que je me disais je pouvais inclure en ce moment. Puis tantôt, tu donnais des exemples de tu sais, mettons, de programmation, comment tu développes ça. Puis un autre exemple, je sais que tu en parlais des fois, moi, c'est l'exemple tout le temps que je donne à mes clients, c'est la peur de parler en public.
Ouais.
Puis dans le fond, l'exemple que je donne, c'est de dire si, exemple, tu es à l'école, tu es vraiment jeune, puis là, le professeur pose une question, puis que tu penses, ou en fait, tu penses que tu connais la réponse, tu lèves la main, tu donnes la réponse, et que c'est pas la bonne réponse. Mm. Puis là, tout le monde se met à rire dans la classe, il rit de toi. Mm. Puis là, toi, tu te sens mal. Fait que là, c'est quand la prochaine fois que tu vas poser une question? Absolument. Ça risque de probablement pas arriver. Fait que tu vas être probablement la personne qui va être assise tout le temps en arrière à regarder, puis tu vas avoir peur de parler en public pour le restant de ta vie. Absolument. Puis le point avec les programmations, c'est que tant que tu ne prends pas conscience que c'est... Parce que la plupart du temps, on ne sait pas que c'est relié à ça. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas vraiment le régler. Mm. OK? Puis je veux donner en fait un exemple concret d'une de mes clientes, que tu parlais d'alcool tantôt, ouais. que j'ai eu, puis ça, c'était vraiment une cliente que j'ai déjà eue, c'était concret. Elle est venue me voir et elle buvait en moyenne une bouteille de vin par jour.
Ouf.
Okay? Donc, c'est de l'alcoolisme. Okay? Ouais. Puis, dans
ça
le fond...
Fait, elle... Ça fait combien une bouteille de vin par jour? Ça fait 30... Ça fait 7 bouteilles par jour. Ça fait 35 consommations. C'est de l'alcoolisme pur, parce qu'alcoolisme, je pense que c'est à partir d'entre 20 et 23.
C'est à peu près la consommation recommandée par Santé Canada. C'est ça. Mais coupé. Mais non, c'est ça. Fait, en tout cas, elle prenait une bouteille de vin par jour, ce qui était incroyable. Puis, elle vient me voir, bon... des problèmes de santé, il veut perdre du poids, classique. Puis Ken, dans le fond, là, au début, j'étais comme, OK, je pourrais juste dire, ben coupe le vin. Mais tu sais, elle sait qu'il faut couper le vin. Mm-hmm. Elle sait que c'est pas bon de prendre une bouteille de vin par jour. Mais pourquoi qu'elle le fait? Fait que là, on a décortiqué. Puis je pense que j'en avais parlé vite dans un de nos premiers podcasts, Jay, mais c'est que l'alcool est souvent relié avec un manque d'attention ou slash d'amour des parents. Mm. Puis elle, dans le fond, quand j'ai creusé, puis elle, encore une fois, c'était très inconscient parce qu'elle ne savait même pas. Elle me l'a dit, puis elle le disait, je voyais ses yeux qui étaient comme « shit, je comprends, mettons ». Puis on a creusé, puis en gros, ce que je me suis rendu compte, puisque elle-même s'est rendu compte qu'elle ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'elle était vraiment jeune, je pense que c'est genre primaire, début secondaire, si elle n'avait pas des « A », mettons, sur un bulletin, le A, B, C, D, elle avait pas des A, son père la chicanait, voire la battait.
Hey.
OK? Fait qu'elle, dans le fond, quand elle est arrivée au secondaire, elle dit la première chose que je faisais, c'est que j'amenais ma bouteille de vin dans ma case, puis entre mes cours, j'allais boire du vin dans ma bouteille de vin. C'est de l'alcoolisme pur. Mais l'affaire, c'est que ça part de où? C'est ça fou. Part de son ça père, de son tu comprends? Père. Fait que mais elle est inconsciente. Puis là, quand elle a pris conscience que c'était relié à son père, tu sais, on a parlé quasiment 2 heures juste de ça. Puis quand elle a pris conscience que c'était relié avec son père, puis qu'elle était comme, shit, OK, ouais, c'est pour ça que je faisais ça. C'est pas parce que j'aimais le vin nécessairement. Il y a personne qui fait ça au secondaire avoir une bouteille de vin dans sa case. Du moins, c'est très rare qu'on voit ça. Mais là, après ça, elle a pris conscience. Puis après ça, elle a pas bu d'alcool pendant 4 mois.
Ouais.
Puis après ça, à partir du 5e mois, elle était comme, moi, je m'ennuie quand même d'alcool. Fait que là, j'étais comme, OK, fais attention, mais réintroduis-le graduellement. Puis là, c'est rendu qu'elle buvait une petite coupe de vin même au resto avec son chum, puis c'était rendu full sain. Mais parce elle avait jamais vu, comme compris cette programmation-là qu'elle avait.
Tu sais, tu vois ce que tu as fait, c'est une technique en PNL que j'utilise énormément avec mes clients, littéralement avec la totalité de mes clients. Puis dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir. L'effet entonnoir, c'est d'aller à la source directement d'une programmation et d'un comportement. Je te donne un exemple très simple. Une de mes clientes, littéralement, le sucre, c'est souvent un exemple, mais... J'y disais, as-tu des rages alimentaires? Elle me dit, j'ai des rages atroces de sucre, de pas aider à quel point. Ça, c'est avant qu'on commence le processus. Fait que, tu sais, je suis allé reprogrammer son alimentation, mais après ça, j'y avais dit, on va avoir un beau travail de reprogrammation psychologique pour aller justement enlever certains patterns, surtout sucre est égal à récompense. Et on est allé directement à l'élément déclencheur. Puis l'élément déclencheur, c'était super intéressant, mais je te donne un bel exemple ici parce que la femme se retrouve avec 100 livres de trop. Puis, tu sais, l'histoire est simple. Un peu comme toi, tu as fait l'effet entonnoir, tu es allé creuser en posant plusieurs questions, le pourquoi, etc. Et cette personne-là, je te donne un exemple très simple, elle se retrouve à l'âge de 28 ans, 29 ans, est à peu près 100 livres de trop. Élément déclencheur. À partir de 17 ans, elle a commencé à manger ses émotions. Cette jeune femme-là, techniquement, elle s'est avouée lesbienne. Puis quand elle est arrivée à sa mère et à son père pour leur annoncer, sa mère est son gros pilier émotionnel. Fait que techniquement, sa mère, à chaque fois qu'elle avait besoin d'aller parler à quelqu'un, d'exprimer ses émotions, de parler de ses expériences dans sa vie ou peu importe quoi, c'était sa mère qui était là pour l'écouter. Et ce qui était intéressant, c'est que dès l'instant où elle a annoncé qu'elle était techniquement lesbienne, sa mère, elle n'a pas voulu accepter. Puis sa mère, elle a comme balayé un peu de la main, puis elle essayait de la ramener sur le droit chemin qu'elle disait. Puis c'est fou, mais tu sais, je peux pas concevoir qu'en 2024, on est encore là. Mais elle essayait de la ramener sur le droit chemin, puis tout. Puis là, elle a pris la décision de quitter ce milieu-là, d'aller dans le fond en appartement avec sa copine, parce qu'elle avait une copine maintenant. Puis dès l'instant où elle a commencé à mettre fin à sa relation avec sa copine, parce qu'une première relation, on s'entend, d'habitude, c'est rare que ça touffe éternellement. Fait qu'elle a mis fin à sa relation quand même assez rapidement. Et à ce moment-là, elle s'est ramassée seule, en appartement, sans nécessairement avoir aucun repère ni GPS dans sa vie, et en n'ayant plus son pilier émotionnel, qui est sa mère. Mm. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est retrouvée dans un pilier émotionnel très facile, la nourriture. Mm. Fait qu'elle est allée manger, puis tout le temps, c'était toujours le sucre qui amenait à diminuer son stress qu'elle vivait dans sa vie quotidienne. Ça la sédatait un petit peu. Puis elle s'est retrouvée à toujours continuer d'enrichir ce système-là. Fait qu'elle s'est retrouvée 10-15 ans plus tard. Sa relation avec sa mère allait correcte. Mais tu sais, je lui ai demandé, est-ce que tu as encore des dents envers ta mère? Est-ce que tu es encore fâché ou est-ce que tu as encore quelque chose, une crotte sur le cœur? Ta voix, elle recule, baisse les épaules, puis elle sort une larme de suite. Tu es comme, je peux pas concevoir. Je t'ai allé parler, je t'ai allé rencontrer du monde. On vient de déloger ça là. Wow! Fait qu'elle a communiqué avec sa mère la semaine même. Mais il faut qu'on aille directement à la source du problème. C'était qu'elle avait perdu son pilier émotionnel et qu'elle avait interchangé ce pilier-là pour le sucre. Mm. Tu comprends? Qui est l'alimentation. Fait que là, ça fait en sorte que cette personne-là, qui est une super de belle être humain, se retrouve avec 100 livres en trop. Fait que tu sais, quand on regarde une personne dans la rue qui a 100 livres de trop, faut comprendre que cette personne-là, pour se rendre là, il y a eu toutes sortes de parcours puis toutes sortes de choses dans sa vie qui s'est passées, des programmations. Ça peut être ses parents qui ont tout le temps dit, tu sais, peu importe la raison.
J'ai des clientes des fois qui viennent me voir, puis ils ont, mettons exemple, la mère, je fais des chiffrons, là, elle pèse 200 livres, elle devrait en peser, mettons, 130. Là. Mm. Puis elle m'amène sa fille, genre, pas tant longtemps après, puis sa fille, elle a 15-16 ans, puis elle pèse déjà 180, elle devrait en peser 110. Ouais. Puis là, tu fais comme, elle,
c'est les programmations des parents.
C'est ta fille, là. C'est toi. Oui, mais c'est toi qui as réduit
si
la programmation.
Si tu amènes des pop-tarts licorne avec du Nesquik chaque matin, on s'entend que c'est de ta faute. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant, mais on est plein de systèmes de programmation. On va en parler plus bas, là, mais c'est vraiment important de comprendre, guys, que la programmation, tout le monde en a. Moi, j'ai fait des études en premier lieu en technique de diététique. On a fait des études en naturopathie. On a lu des livres. À chaque fois qu'on lit un livre, nos systèmes de programmation changent tout le temps. Parce que si on lit un livre sur, exemple, comment, je donne un exemple très simple, comment réussir à mieux gérer notre tempérament, ben je viens déjà de m'améliorer, mais j'ai pris plein de prises de conscience sur plein de comportements que j'avais parce que je savais pas que j'avais ça. Fait que, au final, c'est ça en tant que tel la PNL. C'est d'être capable de remodeler notre vie comme on le veut et de changer nos systèmes de croyances. Sam, je te laisse continuer.
Je peux juste vas-y. Dire sur un des livres que on voulait faire à la fin du podcast. Si jamais on a le temps, on en parlera des livres qu'on a bien aimés au niveau développement personnel qui nous ont aidés. Mais si j'ai emplugué un live, puis c'est un petit livre là, pas gros puis pas grand personne qui connaisse, ben je sais pas si c'est ça. L'écoute un gage de réussite, ça te semaine en tête?
Non, c'était pas lui.
Parce que ça, c'est un des livres qui a changé ma perception d'avoir une discussion avec quelqu'un. Puis, tu sais, moi, je suis bien du genre, je parle pas trop, mais je sais tout ce qui se passe, j'écoute, je vois, je suis genre, mais tu sais, j'écoute. Puis, dans le livre, une des choses qu'il disait que je trouvais quand même bon, par contre, c'est une programmation, une perception, ça pourrait être le meilleur terme, mais c'est qu'il disait, à un moment donné, il y avait une conversation avec quelqu'un, puis pendant toute la conversation, il a pas dit un mot. La personne a tout dit ce qu'elle faisait, c'est se passer, passion, c'est ici, c'est ça. Fait qu'il dit, j'ai genre dit, OK, c'est mon nom, c'est ça. Puis à la fin, merci, bonne journée. Puis il dit, je suis arrivé chez nous. Puis dans le fond, c'était un couple d'amis, la personne qui parlait avec sa blonde. Puis dans le fond, le gars qui avait tout dit ce qu'il faisait dans la journée a dit à sa blonde, hey, en parlant du gars qui a écrit le livre, hey, il est tellement nice, j'ai full une belle discussion.
Il a absolument rien dit.
Fait que sa blonde, elle l'a dit à sa blonde, puis là, bon, sa blonde l'a dit à lui, je sais pas si c'est clair, mais finalement, il avait rien dit. Il dit, j'ai juste écouté la personne, puis la personne trouvait que j'étais fucking nice, puis c'était full le fun, elle avait tellement besoin de parler. Mm. Fait que tu sais, c'est ça, je trouvais ça bon, ça rentre, je pense, dans la programmation côté développement personnel. Mais
ben, en fait, c'est, tu sais, en relation humaine, en relation de couple, puis te les quittes, en général, ils disent écoute à 60% et parle à 40%, parce que l'écoute devrait toujours être premier et ensuite de ça le parler. Mm. Mais combien de personnes parlent à 90% puis écoutent à 10%? Mm. Fait que, tu sais, encore une fois, s'il y a du monde qui se retrouve dans une situation où ils chicanent tout le temps avec leur conjoint-conjointe, ben techniquement, s'il fait juste s'auto-évaluer et qu'il n'est pas conscient du comportement, mais que quand il était jeune avec son frère et sa sœur, ben jamais il écoutait, il faisait juste tout le temps combattre, puis débattre, puis débattre, puis débattre. Puis c'était lui, la petite tête forte. Fait que dès l'instant qu'il parlait, il parlait à 90% du temps, puis son frère parlait pas. Mm. Fait que, tu sais, au final, il a pris le même comportement qu'il avait avec son frère et sa sœur, puis après ça, il l'a transposé avec ses conjoints-conjointes. Fait qu'il se retrouve dans une situation où il est même pas conscient qu'il y a ce problème-là, mais c'est sa programmation. Ouais. Fait qu'on va en parler tantôt de la conscience.
Moi, le seul moment que je t'écouterai pas, ni ma blonde, c'est sûr, à 100%, c'est asseoir à 8h15 parce que c'est les Oilers contre les Panthers en finale de la Coupe. Je fais une prédiction, Oilers en 7.
Fait que là, techniquement, on est vendredi le 21 juin 2024. Fait que t'as qu'à enregistrer
ça. 3-2 Panthers en 7.
Tu dis combien?
Oilers. Ah, la match, Je vais dire à ça, ça va être serré. Moi, je dis genre, ça va être très serré.
5-4.
3-2, Oilers.
5-4. OK, let's go. Il va avec 5-4 son
Oilers, toi?
Ouais, on va continuer.
All right, donc, deuxième point. Comprendre ses croyances limitantes. J'avais sorti 4 points. Le premier, c'est pas tant de comprendre les croyances limitantes. Je sais qu'on avait parlé, on avait comme effleuré le sujet, je pense, dans un de nos derniers podcasts.
On va se reparler, mais en
doigts de la main.
Plus.
OK. Ouais. Puis le point, c'est de dire, quand on parle des 5 doigts de la main, le concept du côté développement personnel, c'est de comprendre que les personnes qui nous entourent, les 5 personnes les plus proches, va être comment nous aussi on va être. Dans le fond, on va devenir caméléon par rapport aux personnes qui nous entourent.
C'est une loi universelle.
Okay? Puis je vais donner un exemple très simple face à ça. Puis lui, hier, littéralement, OK, c'est une nouvelle cliente que j'ai en analyse thérapeutique. Donc, première fois que je la rencontre. Puis là, on fait le bilan complet. Puis à la fin, on a des questions sur est-ce que tu as déjà fumé? Est-ce que tu as des troubles respiratoires, asthme, apnée, etc.? Ouais. Est-ce que tu as déjà fumé ou est-ce que tu fumes? Puis là, elle me dit non, je fume pas, mais j'ai déjà fumé longtemps. Fait que là, je fais comme OK. Puis là, c'est quoi ton pattern? Tu sais, quand tu as arrêté? Combien de temps? Quel âge tu as commencé? Elle me dit, c'est à quel âge qu'elle a commencé à fumer la cigarette?
Quel âge?
12 ans.
Ew.
À 12 ans, elle a commencé à fumer la cigarette. Elle a arrêté une affaire comme 26-27 quand elle a eu sa première. Fille ou gars, je m'excuse, je sais plus c'est quoi, mais je sais plus c'est quel genre, mais premier enfant. Puis fait que ça veut dire qu'elle a fumé de 12 ans à 27 ans. Puis après ça, elle a arrêté pendant qu'elle était enceinte. Et après avoir été enceinte, après son enfant, mettons peut-être 3-4 ans plus tard, elle s'est séparée de son conjoint. Elle a eu un énorme stress et elle a recommencé à fumer à cause du stress. Mm. Elle a fumé 2-3 ans. Puis là, elle a comme 30 cucs. Elle a arrêté depuis environ un an ou deux. Fait que, elle a comme eu deux patterns. Puis là, je dis, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à fumer à 12 ans? Ça n'a pas de sens. Là. 12 ans, je jouais dans le corps de
sa mère. Ils ont mis une cigarette dans la bouche.
Ben, ça aurait pu, vraiment, mais ça, j'espère pas. Mais c'est, non, c'est côté social. Mm. Fait que quand on parle des 5 personnes qui nous entourent, les 5 doigts de la main, c'est qu'elle dit, tu sais, 12 ans, c'est jeune, là, mais mettons, on va dire, le premier party là, avec des amis, puis là, tout le monde était comme cigarette, mettons, sûrement que leurs parents fumaient, je sais pas quoi.
Puis c'est une décision.
Ouais, puis elle a dit, j'ai vraiment aimé ça. Puis je dis, c'est quoi que tu aimais? C'est-tu le goût? Si tu le fais? Il y en a qui c'est juste de tenir une cigarette qu'ils aiment. J'avais déjà entendu ça, juste de tenir ça. Il y en a d'autres, ça déstresse. Il y en a d'autres, c'est qu'ils savent pas quoi faire, fait qu'ils vont fumer. Fait qu'ils ont comme des patterns, des programmations. C'est pas tout le temps. En fait, c'est rarement que la personne fait comme, waouh, j'aime vraiment le goût puis le goudron. Ça n'existe pas. C'est qu'elle était programmée au fait que tous ses amis voulaient fumer. C'était comme cool. Elle s'est fait influencer. Elle a trouvé ça nice de dire, tous tes amis devaient dire, ben, ah, t'as fumé à 12 ans. Mm. Elle s'est mise à fumer, puis là, elle fumé pendant tant de temps, puis aujourd'hui, elle a d'autres des problématiques au niveau des poumons.
À cause qu'un événement dans sa vie a fait en sorte qu'à ce moment-là, elle a pris la décision de commencer à fumer, mais elle est inconsciente. Mm. Je te donne un exemple très simple avec moi-même, système de programmation, mais par rapport à ça, ce que tu viens de dire, les 5 doigts de la main. Moi, quand j'étais au primaire, j'étais un petit enfant, on va dire, quand même réservé. T'sais, j'étais comme, j'avais ma petite gang de quartier, puis le kit, ça allait bien. Rendu au secondaire, j'ai commencé à embarquer dans les mauvaises influences, puis c'est au secondaire que j'ai rencontré ma première copine, la première amour de ma vie, Fanny, dans le fond. Puis j'ai été avec Salut Fanny. J'ai été avec elle pendant 7 ans quasiment. 7 ans, 7 ans et quart. Puis elle était super équilibrée dans sa vie. Tu sais, il y avait toutes sortes de chamboulements dans sa vie, mère, père séparé puis tout. Mais elle était quand même considérablement très équilibrée. Puis c'était vraiment une personne avec d'excellentes valeurs. Puis moi, j'avais des parents qui avaient des bonnes valeurs aussi. Fait que vraiment, j'avais tout pour moi. Mais les cercles d'influence auxquels j'étais entouré, c'était toutes les petites racailles de l'école. Puis ça, honnêtement, je suis même pas gêné de le dire. J'en ai qui se sont fait littéralement mettre dehors parce qu'ils ont volé. On en avait qui prenaient littéralement de la drogue en plein milieu de la classe. T'sais, c'était de la drogue que tu cassais puis que tu prenais. Puis il y avait vraiment toutes sortes de mésaventures, comme sur l'heure du dîner, littéralement, on allait dans un parc à côté, mais je n'ai jamais une seule fois touché à une seule drogue. Pourquoi? J'aurais pu littéralement être influencé, mais c'était tout le temps parce que j'avais ma copine et c'était la personne avec qui je passais le plus de temps, puis je ne voulais pas la décevoir. Je voulais réussir à rester l'homme parce que moi, dans ce moment-là, je voulais absolument garder cette femme-là dans ma vie. Fait que, tu sais, à cause qu'elle était dans mon cercle d'influence, j'avais 4 personnes qui fumaient, qui buvaient, qui prenaient pas soin d'eux, puis j'avais une personne qui prenait 80 % de mon temps, mais cette personne-là avait des super de bonnes valeurs, bien, j'ai réussi à ne pas être influencé. Mm. Mais une chose qui est certaine, j'en ai reparlé avec mes parents, si elle n'avait pas été dans ma vie à ce moment-là, dans le moment où le jeune moi me cherchait le plus.
Tu serais pas là aujourd'hui.
Je serais probablement parti ailleurs. T'sais, je serais pas là en ce moment, en face de toi, en train de faire un podcast avec une clinique puis tu la quittes. J'aurais probablement tombé dans la drogue.
Je remercie Fanny d'avoir amené un partner avec moi.
Ben, honnêtement, tu sais, je suis très reconnaissant d'avoir eu cette femme-là dans ma vie parce qu'à ce moment-là, je sais que mon chemin de vie par rapport aux choix que j'avais fait avec mes amis puis tout aurait été complètement différent. J'aurais sorti d'école privée, je te dirais, par la porte d'arrière à me faire botter les fesses parce que j'aurais volé, j'aurais fumé de la drogue, j'aurais fait plein d'affaires. Fait que mon chemin de vie a été complètement différent à partir du moment où elle est rentrée là. Fait que, tu sais...
C'est ça, les 5 doigts de la main.
C'est ça, les 5 doigts de la main.
Mettons, je vais prendre mon exemple, c'est la même affaire. T'sais, la personne que je passe le plus de temps avec, c'est même pas ma blonde, c'est toi. Là, littéralement, la deuxième va être ma blonde. Troisième, peut-être bien ta blonde, genre, ben notre gang ici, Anga, Flo. Sinon, ça pourrait être genre, Guillaume, un de mes très bons amis, je te dirais un de mes meilleurs amis. Mm. Fait que, tu sais, pis si je regarde, mettons toutes les personnes que je viens de te nommer, là, toi, ta blonde, ma blonde, Flo, Anga, Guillaume, qui sont pas mal les 6-7 personnes que je maintiens le plus proche, c'est toutes des personnes qui s'entraînent, c'est toutes des personnes qui mangent bien, sauf Flo.
C'est pas vrai, Flo.
C'est toutes des personnes, tu sais, qui ont un beau mode de vie, qui sont dans le domaine de la santé, tu sais, fait automatiquement, c'est sûr que moi, je tripe ça, tu sais, on est tous des passionnés, fait que c'est de même, ça fonctionne.
Absolument.
Fait que ça, c'est le conseil. Vas-y.
Tiens-toi avec 5 millionnaires, ça se peut que tu parles bien d'argent puis que tu deviennes un millionnaire. Tiens-toi avec 5 docteurs, ça se peut que la santé t'intéresse. Tiens-toi avec 5 fumeurs, ça se peut que la cigarette soit quelque chose d'intéressant pour toi. C'est con même, c'est ça. Fait que c'est des points. Fait que.
Ouais. OK. Autre point? Quand on parle de comprendre ses croyances limitantes, on avait sorti tantôt le fait que les programmations de nos parents.
Hey,
et là, on s'entend que, puis d'ailleurs, t'as-tu, je peux faire un résumé là-dessus, parce que peut-être pas 100%, mais une énorme partie des programmations, pas juste alimentaires, de notre vie, les programmations tout simplement qu'on a, proviennent des parents. OK, à moitié exemple, le chien qui te snap, que t'as donné tantôt, c'est pas le parent, là, c'est le chien, mais la plupart du temps, ça provient des parents.
On va dire l'identité. T'sais, c'est vraiment les programmations qui vont faire de toi l'identité que tu es, la personne que tu es. Est-ce que tu es une personne propre? Est-ce que tu es une personne qui a des bonnes croyances au niveau financier? Ça.
Exactement. Donc, ça provient des parents la plupart du temps. Puis, tu sais, tantôt, on sortait le concept que les parents programment à avoir peur. Puis, on donnait l'exemple du, tu sais, fais attention, tu vas te faire mordre, fais attention.
Mets ton casque, fais attention.
Mets un casque, mais tu sais, c'est ça, exactement. C'est de toujours avoir peur. Puis, écoute, le peu humain, c'est drôle. Je parlais de ça avec un de mes clients, un de mes bons clients cette semaine. Puis, à côté de chez nous, dans ma rue, OK, il y a je la connais pas, il y a une personne qui est là qu'à chaque matin que je pars travailler, puis je connais pas l'histoire, tu sais, je sais pas, là, je vois vraiment par rapport à ce que j'ai vu, mais à chaque matin, du lundi au vendredi, elle amène son jeune garçon, qui doit avoir, je te dirais, peut-être un 7-8 ans, jusqu'à l'arrêt d'autobus. Mais à chaque matin, elle l'amène, mais tu sais, en ayant la main, tu sais, on dirait qu'il n'est pas capable de marcher tout seul, là, ça n'a aucun sens.
Il y a une élastique pour vrai. Après l'enfant.
Ouais, exactement, il était encore cordon ombilical, là, OK?
Ah, ça,
puis je me dis, tu sais, elle croit que ça, c'est bon, tu sais, elle est toujours avec elle. D'un, je dis ça de même, mais il risque de se faire écœurer que tout le temps sa mère est avec lui. Puis l'autre point, c'est pas juste ça, c'est que lui, quand sa mère ne sera plus là, c'est il va capoter, non? Ouais. Il va être super insécure.
Exact.
Fait que quand on parle des parents, c'est ça, ça fait partie de ça.
C'est des programmations de même. Okay. Tantôt, t'en parlais avec la nourriture. T'sais, si tes parents rentrent des Pop-Tarts licorne, des Fruit Loops, pas Fruit Loops. Ah. Quand ils rentrent des Fruit Loops à la maison, puis que tu manges des Sugar Crips avec ton petit pipi qui sent mauvais, t'sais, tout ça, c'est tes parents qui viennent à faire ça. C'est de la programmation.
C'est les asperges que ça sent mauvais. Troisième point, personne qui croit que gagner, c'est un exemple, 5 000 $ par mois, c'est beaucoup.
Ouais.
Puis, tu sais, si tu fais le calcul, mettons quelqu'un qui commence à travailler, un jeune étudiant qui se met à gagner 5 000 $ du jour au lendemain par mois, mettons. Si on a un exemple, un salaire de 60 000 par année, il va être riche, lui-là, là, tu comprends, dans sa tête, il va être riche. Puis c'est vrai qu'il risque de l'être parce qu'il n'y a probablement rien à payer sauf son cellulaire, genre. Mais il y a des millionnaires ou des multimillionnaires que 5 000 $ pour eux, c'est genre littéralement une soirée. Même là, ça coûte. J'avais entendu. Sais-tu, avec. T'en rappelles-tu de l'histoire d'Alex Hormozy? Avec le burger ou.
Ah ouais. Ouais, dans le fond, c'était Alex Hormozy.
Je suis sûr, mais je sais que c'est Alex Hormozy, je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais c'était de dire
c'était
que
à New York. Dans le fond, tu l'expliques.
Ben vas-y, ouais.
À New York, dans le fond, c'est con, mais tu sais, quand on voit, mettons, la perspective, il y a du monde qui se promène dans la ville de New York, puis à un moment donné, ils vont croiser un restaurant, puis c'est un restaurant qui offre un hamburger. Puis le hamburger, en tant que tel, il est étiqueté à 25 000 $. Fait que là, le monde arrive, 25 000 $, où dans le temps, c'était un bitcoin pour. Fait que là, le monde arrivait, puis ils sont comme, voyons, ils sont-tu fous de vendre ça? Impossible que je paye un burger 25 000 $. Puis tu sais, 99% du monde vont passer devant ce store-là et vont dire, sont fous. Sauf qu'il en vend à chaque jour. Parce qu'il y a du monde qui vont littéralement prendre leur jet privé, leur avion, se transporter à New York et vouloir aller vivre l'expérience de manger ça avec tel champignon, avec des truffes, avec la boulette de telle affaire, avec telle chose, de l'or dessus, avec l'expérience qu'il va avoir. Mais il y a du monde qui ont ça. Tu sais, en ce moment, pendant qu'on se parle, là, c'est con à dire, là, mais il y a du monde qui sont en train de se payer une coche Louis Vuitton à 12 000 $. Puis il y a une autre personne qui est en avant justement du billet, les billets de la finale de la Coupe Stanley, puis qui paye 10 000 $ pour un billet juste pour être là-bas pour une expérience de 2 heures. Tu sais,
puis ils sont
C'est relatif pour chaque personne, mais tu sais, de dire, puis ça, encore une fois, c'est des systèmes de croyances, de dire que 1 000 ou 5 000 ou 10 000 ou 50 000 par jour, c'est beaucoup. Encore une fois, il y a du monde qui n'ont pas les mêmes systèmes de croyances. Mm. Comme toi et moi, si actuellement, je donne un chiffre de même, c'est un chiffre fictif, mais si actuellement, dans ton compte, tu as 2 000 qui rentrent à chaque mois, bien, principalement, si tu as 2 000 $-là, c'est ton système de croyances et c'est ta réalité. Mais si dans 10 ans, ton entreprise a extrêmement cru, elle a vraiment bien été, tu as plein d'employés, tu as 7, 8, 10 centres et que tu es rendu avec 50 000 par mois ou par semaine, bien, c'est plus du tout la même réalité, mais ton système de croyances va avoir changé aussi en lien avec ça. Tu comprends?
L'exemple du burger, là, juste pour revenir à ça, c'est qu'il disait la personne multimillionnaire qui a un burger à 25 000 puis que l'autre, c'est par exemple, McDo qui va donner un vendre un burger à 7 piastres, genre.
Ils sont rendus 19,99
avec l'inflation. Mais il n'y a aucun intérêt à aller chercher, à moins qu'il aime le McDo, là, mais dans le sens qu'en termes de budget, lui, il va se dire il n'y a aucun intérêt à aller chercher celui à 7 piastres parce que pour lui, 7 piastres pour toi, c'est la même affaire pour lui, 25 000.
Exact.
C'est un 7 piastres pour lui au bout de l'année.
C'est
fou. Il va se dire tant qu'à payer 7 cents pour lui du McDo, je vais payer 7 piastres, je vais avoir lui le meilleur. Il va payer celui à 25 000. Mm. Fait qu'il va être super content. Mais s'il y en avait à 1 million, peut-être qu'il paierait 1 million aussi.
C'est fou les perceptions. C'est ça la perception. Il y a du monde qui vont croire dans leur tête. T'sais, tu prends deux personnes. Tantôt, je veux parler concrètement d'une histoire d'eux-mêmes. Mais tu prends deux personnes. Il y en a une qui dit je suis pas bonne, je suis pas capable, je suis pas belle. Puis la même personne pourrait se dire je suis bonne, je suis capable, je suis belle. Mm. Puis ils vont avoir complètement un chemin de vie différent. C'est tout le temps des questions de perception. Comme, tu sais, si toi, tu arrives et tu te dis « Ah, Caroline, j'ai pas d'argent, il faut que je paye mes taxes municipales, il faut que je paye ça. Là, je veux m'acheter une maison, mais j'ai pas d'argent. Écoute, je travaille déjà 60 heures par semaine, je suis pas capable d'arriver. » C'est parce que ta programmation puis ta façon de percevoir l'argent est pas bonne. Mm. Il faut que tu changes ta façon de travailler. Tu peux pas réussir à te payer une maison avec ton salaire là actuel à 60 heures par semaine. Ben il faut que tu réussisses à trouver une autre possibilité. Peut-être avoir un side job, peut-être changer ton système financier, de croire que tu es capable de faire peut-être de l'argent pendant que tu dors. Fait que d'essayer de monter des systèmes. C'est des systèmes de programmation et de croyances. Fait que
c'est... Je vais te donner un dernier point, en fait, avant de passer d'où proviennent les croyances limitantes puis comment elles se reprogrammer que tu vas parler.
Ça va être intéressant.
Le quatrième point, dans le fond, c'est... puis ça, c'est un énorme point, en fait.
C'est
le
système
scolaire. Ouais. Okay? Puis j'avais vu, à un moment donné, c'était un... Je dirais, comment t'appelles ça? Pas un gif, là, une image. Un mime, genre un mime, là. C'est ça le terme?
Ouais, une image.
Une image. Puis c'était, dans le fond, tu avais un professeur, sûrement qu'il y en a plein qui vont l'écouter, qui ont déjà vu ça. Dans le fond, c'était dehors, il y a un gros arbre, puis tu as un professeur en avant, puis les élèves, dans le fond, c'est tous des animaux. Mm. Okay? Puis là, tu as un lion, tu as une girafe, tu as un singe, tu as un poisson, genre dans un bocal. Puis là, le professeur, il est comme, bon, ben, OK, l'examen aujourd'hui sera de le premier qui monte en haut de l'arbre. Mettons, ceux qui montent en haut de l'arbre ont A, puis ceux qui sont pas capables ont D, genre, exemple, pourcentage.
C'est bon,
là,
ça.
Le poisson dans le bocal, c'est fait qu'il fasse, lui.
Il peut pas.
Mais non, puis la girafe est déjà rendue en haut. Fait que lui, il a gagné avant même de partir. Puis le singe, il prend 0.2 secondes. L'éléphant n'est pas capable de monter dans l'arbre, il va défoncer l'arbre. Fait que là, tu regardes ça, puis tu fais comme, puis c'était quand même, là, je mets tout en perspective sur une image. Mais c'est ça, c'est que les êtres humains, on est tous des êtres humains, mais on est tous différents. Mm. Puis on le voit, même moi, puis toi, Jay, je suis un gars qui est super organisé, je vais avoir tendance à tout backer ce qui se passe, je vais tout répondre aux affaires, mais quand vient le temps de développer des produits, je suis comme shit, j'ai pas tant d'idées, tu sais. Mm. Puis toi, t'es comme tout mêlé dans bien des affaires, mais quand c'est le temps de développer des produits, tu t'enlignes en tabarnak. Mm. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on se complète bien, puis qu'on a une belle business, puis qu'on va développer ça ensemble? C'est qu'on n'a pas les mêmes, on est deux humains, on est deux gars qui s'entraînent, on est deux gars qui mangent, on a tous le même concept, mais on a deux façons de travailler complètement différentes. Puis, tu sais, juste exemple d'un podcast. Moi, je vais arriver la veille, je vais être en train de tout préparer mes affaires. Toi, 10 minutes avant le podcast, t'as préparé ta feuille. Moi, je suis pas capable.
T'es hyper anxieux, moi, je suis comme.
Ben, c'est pas que je suis anxieux, c'est que j'ai besoin d'avoir une préparation.
Ouais.
Fait que c'est différent. Puis, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'on n'est pas de la même façon. C'est fait que bien. Si on se demande de faire un examen puis qu'on a 10 minutes pour faire l'examen, c'est sûr que tu me défonces, tu comprends? Ouais. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de me préparer.
Mais c'est les systèmes, comment j'ai toujours fonctionné. Moi, un examen, j'ai toujours étudié. Genre, tu sais, l'examen est à 8 heures le lendemain. C'était l'examen de fin de session. Il faut absolument que je le passe, sinon je coule ma session. Moi, étudié à minuit et demi.
Ah, j'avais des amis, justement, ils étaient de même, man, ça me faisait capoter.
Non, moi, je suis de même. Là. Puis encore, souvent, jamais, c'est le matin. Le matin même, j'ouvre mon livre, je suis comme, OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin? OK, ça. Puis...
Ben, c'est ça, on est tous différents. Fait que c'est un peu le concept de. Tu sais, le but, c'est pas de bâcher le système éducatif qu'on a de nos jours, mais c'est un peu ça.
Non, mais je vais quand même rentrer dedans si tu me permets.
Ben, attends un peu.
Vas-y.
Autre point, c'est que, tu sais, on parle. Là, j'ai donné l'exemple des animaux. Mais quand on parle d'autorité, tu sais, on l'a parlé tantôt juste avant le podcast de ça aussi, puis c'est de dire, t'arrives à l'école, t'as un professeur qui t'enseigne une matière, Puis peu importe ce qui se passe, ce qu'il dit, c'est vrai, il a raison, c'est irréfutable. Puis honnêtement, à ce moment-là, tu es au secondaire, au primaire, puis tu écoutes ça, tu es comme, ah, c'est sharp, tu sais. Puis aujourd'hui, puis j'ai rien contre mes professeurs, puis j'ai pas personne en tête, sauf que je sais, j'ai des exemples de choses que je me suis fait apprendre au secondaire, voire primaire, je sais plus quand, peu importe, je peux t'en sortir plein. Puis qu'aujourd'hui, je suis comme, si c'était mauvais ce qu'il me dit, puis si c'était pas ça la réalité, puis à quel point il l'a mal expliqué, puis je l'expliquerais mieux que lui, puis c'est pas de bâcher qui que ce soit, c'est juste de dire ce qu'on apprend, c'est par rapport à la perception du professeur. Tu sais, t'as sûrement déjà eu des enseignants dans ta vie que t'as super aimé, ton cours était incroyable, comme il y en a d'autres que t'as vraiment détesté, puis t'as eu des notes de merde, puis au bout de la ligne, c'est parce que t'as juste pas aimé la personne de la façon qu'elle te l'apportait, ou bien la personne qui te l'a apporté était pas dans son élément, était fâchée, elle venait de se séparer avec son conjoint. T'arrives, elle explique quelque chose de super intéressant, puis tu comprends rien.
Absolument.
Fait que tu sais, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre, mais on dirait qu'il y a comme une autorité, tout le monde doit suivre l'autorité. Tantôt, j'ai vu encore une fois un genre d'image de mime. C'était, tu avais dans le fond un comptoir avec, mettons, une réceptionniste. Tu avais deux comptoirs. Puis, mettons, le comptoir à droite, c'était une réceptionniste. Puis, c'était marqué, il n'y avait personne qui était là. Évidemment, il y avait une grosse file pour le deuxième comptoir. Puis, le premier comptoir, c'était, tu dois changer pour, mettons, avancer. Puis, l'autre comptoir, là, je le dis mal, mais l'autre comptoir, c'était... t'attends les changements de ce qui va se passer. Fait qu'en voulant dire, les gens sont tous, ils font toute la file pour, selon les changements, je vais réagir puis je vais m'adapter. Puis la file du, ben, si tu fais ça puis tu changes, et toi-même que tu changes, à place d'attendre que les changements se produisent, tu vas réussir. Mais les gens, ils n'aiment pas ça changer, ils sont dans leur routine, font leur petite affaire,
réactif,
ils suivent une espèce de...
C'est ça,
c'est un de mes points tantôt, mais oui, effectivement. Fait que c'est super intéressant.
Un point avec l'école, puis tu sais, l'école a besoin définitivement. Les systèmes scolaires qu'on a actuels, c'est pas compliqué. Tu sais, si tu remontes, admettons, à il y a extrêmement longtemps, dans les années 1900, c'était les Rothschild, je pense, qui ont créé l'école, le système d'école, pour justement établir un système qu'il va toujours garder un contrôle sur les gens. Puis ils voulaient que les gens travaillent dans une usine. Ils voulaient qu'il y ait une autorité pour qu'après ça, on embarque dedans un système financier qui est un peu contrôlé, veut pas, par toutes sortes d'institutions. Mais techniquement, le but était, tu vas avoir une autorité en face de toi à l'école. Ensuite de ça, tu vas sortir, tu vas avoir une autorité en face de toi dans ton travail. Et ensuite de ça, tu vas avoir une autorité dans la vie qui est le gouvernement. Fait que tu as toujours un système d'autorité.
Puis tu vas payer des impôts.
Puis tu vas toujours payer, puis tu vas toujours faire ça. Puis le système est un peu fait comme ça. Puis tu sais, si tu regardes, quels sont les gros enjeux de société actuels que l'école devrait commencer à traiter?
Les finances puis la santé.
Les finances et la santé, 100%. Principalement. Les relations humaines, ça en serait peut-être une autre aussi.
Ouais.
Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. L'école, là, s'il comble le reste des besoins-là, ça serait probablement plus important que la science, les mathématiques puis que le kit. Parce que là, l'intelligence artificielle va t'en remplacer ta science, tes mathématiques puis le kit. Demande le théorème de Pythagore sur une équation de telle affaire à ChatGPT puis il te répond en 3 secondes. Fait que littéralement, pourquoi est-ce que je viens de passer 3 ans à travailler le théorème de Pythagore à cette heure? Mais si tu fais juste littéralement enseigner aux gens comment être heureux, comment aimer, comment gérer les finances, une carte de crédit pour faire fructifier ton argent, comment être en santé, tu viens de régler la plupart des problématiques, mais il n'y en a pas un cours de même à l'école. Fin de la parenthèse, je voulais juste expliquer un peu ça, mais c'est ça. Tu sais, il faut qu'on ait une réforme, et malheureusement, moi, ce que je dis souvent à mes clients, ils s'en rendent compte en venant ici, c'est qu'il faut prendre conscience et il faut surtout prendre responsabilité. Arrêter d'être réactif à ce qui se passe sur la Terre et commencer à être proactif. C'est un peu ça notre travail.
Justement, c'est ça, quand je l'ai dit, c'était un des points tantôt, c'était ça, c'est que les gens, dans le fond, tout ce qui se passe alentour d'eux vont faire leur action en fonction de ce qui se passe.
Absolument.
Fait que s'il y a telle affaire qui se passe, ben je réagis puis je fais telle affaire. Puis là, oui, puis il y a quelque chose d'autre, l'autre bord qui se passe, ben je m'en vais là. Versus, ils savent où ils s'en vont, puis peu importe ce qui se passe, ils savent où ils s'en vont.
Absolument.
C'est pas pareil. Veux-tu passer à l'autre point, ça passe vite?
Ouais. Ben, on est rendu à quoi, 36?
Toujours quasiment.
D'où viennent les croyances limitantes et comment on fait pour se reprogrammer? Puis tu sais, ça, oui, la vie d'un professionnel et l'aide d'un professionnel peut vraiment, vraiment, vraiment bien faire les choses parce que moi, honnêtement, j'ai des clients, clientes qui viennent me voir ici. Puis tu sais, on a des techniques, on a étudié là-dedans, on a lu des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de livres sur la PNL. J'en ai lu quand même pas mal juste cette année. Fait que tu sais, c'est des techniques, c'est de la pratique avec des clients. Fait que c'est sûr et certain de le faire sur soi-même, c'est tough. De faire une introspection sur mes comportements que j'ai envers ma conjointe, c'est sûr et certain que c'est tough. Fait que si je m'en vais voir un thérapeute puis qui me dit « Jérôme, tu réagis de telle façon, tu devrais pas », ben là, je vais réaliser, mais je peux pas faire cette introspection-là moi-même. Fait que, sincèrement, que ce soit un coach en PNL, que ce soit nous, que ce soit n'importe qui...
En fait, tu peux.
Tu peux,
mais c'est vraiment tough. Plus difficile.
C'est plus difficile parce que ça demande de mettre une des choses qui est
l'ego.
Souvent en avant, c'est ça, l'ego et l'orgueil. Et l'ego veut pas, lorsque tu arrives dedans un comportement humain, c'est tough.
Ouais, effectivement.
Fait que, un peu, c'est ça. Fait que, d'où viennent les croyances limitantes? En fait, on en a parlé vraiment rapidement tantôt, ben en fait, quand même en détail, mais c'est souvent de notre jeunesse. Les croyances, en général, vont provenir de notre jeunesse. Puis je vous explique une belle histoire vraie ici, puis c'est une histoire d'un roman à succès. C'est l'histoire en tant que telle de Tom et Jake, qui sont deux frères jumeaux. Puis ce qui est vraiment intéressant de cette histoire-là, c'est que ça montre à quel point la vie peut être différente par rapport à ce qu'on a vécu. Tout comme tantôt, très rapidement, j'ai garoché l'histoire du chien ou l'histoire de l'alcool puis tout. Ça, cette histoire-là, c'est quelque chose qui a vraiment été répété dans plusieurs livres de développement personnel pour expliquer justement la PNL. J'explique l'histoire. Deux frères, âgés d'environ 12 ans, ils ont un père monoparental. Ils vivent dans une petite banlieue. La maison, en général, c'est quand même assez tranquille puis tout. Puis les deux frères, le soir, ont tendance à tout le temps jouer dans leur chambre. Puis là, un moment donné, ils entendent cogner à la porte parce que là, ils commençaient à voir que le père était stressé puis que, tu sais, ils voyaient tranquillement pas vite qu'il y avait des travaux à faire dans la maison puis il y avait ci. Puis là, le père, il a commencé à sortir un peu plus le soir. Puis un moment donné, c'était rendu qu'il entendait cogner les deux enfants à la porte à chaque soir. Donc là, ils descendaient dans les marches, ils allaient voir puis ils voyaient leur père juste faire une petite transaction, passer une petite poignée de main. Puis après ça, hop, le monsieur, il partait. Puis là, tranquillement pas vite, de mois en mois, ils se sont rendus compte que dans la maison, il y avait un nouveau divan, il y avait une nouvelle TV, il y avait ci, il y avait ça. Puis là, un moment donné, il y avait tout le temps la même petite poignée de porte, tout le temps, la même petite poignée de main après un cognage de porte à chaque soir. Puis là, un moment donné, quelques mois plus tard, tout ce qu'ils entendent, c'est qu'ils sont en train de jouer dans leur chambre, ils entendent la porte cogner. Puis là, un moment donné, BAU! Ils entendent juste un coup de balle de gun. Après ça, ils descendent en bas, ils vont voir leur père et Red mort à terre avec une balle dans la tête. Puis littéralement, à partir de ce moment-là, les deux enfants, ils ont eu un parcours de vie complètement différemment. Il y en a un des deux enfants, parce qu'ils sont allés dans des foyers, puis les quittent, ils ont eu tout qu'un parcours de vie, puis dans le livre, dans le fond, il explique vraiment toutes les programmations qu'ils ont pu vivre. Un des enfants, je ne veux pas me tromper sur son nom, Tom. Tom a super bien réussi dans la vie, puis Tom, il a trois enfants, il a une entreprise, ça va super bien dans sa carrière. Vraiment, le gars est un exemple de réussite, super positif, en shape, etc. Puis Jake est allé deux fois en prison, il est complètement addict à la drogue, il n'a jamais réussi à avoir une relation stable, il n'a pas d'enfant, il est malheureux, etc. Puis un moment donné, quand Tom a écrit ce livre-là, il est allé voir son frère, puis dans le fond, ils se sont auto-interviewés, dans le fond, puis ils se sont parlé, puis tout. Puis ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont eu ce chemin de vie-là? C'est que les deux avaient la même perception. Ils ont toutes les deux répondu ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, Tom, que tu es rendu riche avec telle affaire, avec ta famille, puis tout? Il a dit, avec un père comme j'avais, comment j'aurais pu faire autrement? Puis quand ils ont posé la question à Jake, il a dit absolument la même réponse. L'un a littéralement transposé la situation de son père comme « Wow, j'avais un père qui était vendeur de drogue et il est mort. Jamais je veux être de même. Je vais complètement faire une vie différente. Je vais aller dans un autre chemin. » Fait qu'il est allé complètement dans la famille, dans des bonnes valeurs, etc. Puis de l'autre côté, t'as Jake qui s'est dit avec un père de même « Comment je peux faire autrement? » Fait qu'il est allé dans la drogue, dans déchéance, puis il s'est laissé tomber complètement. C'est fou.
On voit que la perception est super importante.
C'est fou. Fait que tu sais, si tu regardes en tant que tel, comment se créer des croyances, c'est par des expériences de vie, comme le chien, comme l'alcool, comme le père. C'est des expériences que vous allez vivre. Et souvent, c'est la première expérience que vous allez lire, que vous allez vivre. Je donne un bel exemple ici. Je regarde le livre en arrière de toi. À l'école, les professeurs, on dirait qu'ils nous tentent de moins. Tu sais, ils veulent qu'on lit pas. Pourquoi? Parce que ton professeur de français...
Ils veulent qu'on lise des livres de...
Pierre et Jean, deux gars sur un bateau en train de pêcher puis de compter rien.
Ouais, c'est ça.
Il veut que tu lis ça. Puis même le professeur, il donne le livre. En plus, il te le fait payer. Tu sais, c'est tellement plate. Il donne le livre. Et il vous dit, oh, alors vous allez lire Pierre et Jean. Là. Pierre et Jean, c'est une histoire plate. Il n'y a personne qui veut lire ça. Fait que vous avez un examen dans deux semaines. Là. Lisez ça. J'étais comme, fuck, non. Mais tu sais, c'est ça. Il ne nous donne pas envie de lire un livre. Fait que quand on arrive après ça, dans notre vie normale, puis qu'on est sorti de l'école, enfin, puis que là, tu arrives, puis que tu vois un livre. Là, tu te dis, c'est plate lire des livres. Puis, il n'y a personne à l'école qui nous ont jamais fait lire un livre sur les finances, sur le développement personnel, sur comment aimer, toutes ces affaires-là. Fait que tu arrives dans la vie, tu n'as jamais eu première expérience face à ça, mais ta première expérience avec un livre, c'est de la merde. Fait que tu n'as pas envie de lire. Fait que le Canadien et l'Américain moyen lit moins d'un livre par année. Mais c'est tout là lors du développement personnel. Littéralement, j'ai lu un livre la dernière fois, là, c'est le rapport Campbell. On parle d'un des plus grands chercheurs en oncologie au monde. Et cet homme-là a écrit un des plus bels ouvrages que j'ai jamais lu de mon existence. Et c'est 30 ans d'expérience dans le domaine de l'oncologie, de toutes ses recherches, de tous les parcours qu'il peut avoir, traduit en l'espace de peut-être 500 pages. C'est fou, man. Mais je viens de prendre tout son savoir de 30 ans en l'espace d'un livre. Mais ça, à l'école, t'apprends pas ça? Fait que Les systèmes de croyances, comment on fait pour se reprogrammer? En premier lieu, c'est un peu ce qu'on vous dit là, c'est de prendre conscience de comment la machine humaine fonctionne. Que si vous allez à l'école et que vous faites, exemple, une programmation, vous allez dans un programme de, je sais pas moi, de codage intelligence artificielle, ben vous avez une programmation maintenant que moi, j'ai pas. J'ai jamais fait ça. Fait que cette personne-là va pouvoir en parler plus, va pouvoir se tenir avec du monde de plus, puis vous introduisez toutes sortes de programmations de même. Les gens ne sont pas conscients que la programmation existe, mais à tous ceux qui écoutent le live, le podcast, vous allez le savoir maintenant. Chaque petite chose que vous faites, que ce soit de pas aimer faire l'activité physique, que ce soit d'avoir de la misère à boire de l'eau parce que vous n'aimez pas le goût, que ce soit d'avoir peur des chiens ou que ce soit de vouloir prendre votre coupe de vin le soir, le vendredi, samedi, dimanche parce que ça vous détend, tout ça provient de vos premières programmations vécues dans votre jeunesse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on fait pour reprogrammer en tant que tel notre système. Dans la vie, il y a une loi universelle. Puis c'est une loi que beaucoup de nos gouvernements utilisent. Beaucoup de notre système est conçu autour de ça. C'est ce qu'on appelle la méthode, le principe du problème, réaction et solution. J'ai un problème. Mon problème, exemple, c'est j'ai un mauvais comportement envers ma conjointe quand on se chicane. Exemple, je suis agressif. C'est un exemple. Exemple, je suis agressif avec elle. Problème, je suis agressif. Réaction. Est-ce que je vais continuer de l'être ou est-ce que je vais vouloir changer ce comportement-là? Et solution, je dois trouver une solution à ça. Si à chaque chose que vous faites dans votre existence, que ce soit d'avoir de la misère à boire de l'eau, problème, j'ai de la misère à boire de l'eau, réaction, c'est peut-être la bouteille d'eau que j'aime pas boire à l'intérieur ou je traîne jamais ma bouteille d'eau ou j'y pense pas. Solution, mets-toi des alarmes, trouve-toi une bouteille que t'aimes. Problème, je fais pas assez d'argent. Réaction, est-ce que je vais juste m'asseoir dessus ça ou je vais être proactif comme tantôt tu parlais et je vais essayer de trouver un système. Réaction, je vais aller écouter des vidéos sur YouTube, je vais me lire un livre sur les finances, je vais aller parler à un conseiller financier. Tout se règle avec le système problème, réaction, solution. C'est simple de même, mais dans n'importe quelle sphère, de n'importe quel aspect de votre vie, c'est toujours la même affaire que vous devriez vous faire. Puis ça, c'est une golden nugget, guys. Problème, réaction, solution. Mettez-la en application avec le plus gros problème que vous avez à régler. Assisez-vous et essayez de déterminer tout le temps le problème spécifique. Après ça, la réaction que vous avez actuellement et essayez de trouver d'autres réactions possibles. Et les solutions, listez-en le plus possible et ensuite de ça, déterminez quelle est la solution qui va fonctionner. Si celle-là ne fonctionne pas, passez à la deuxième. Si elle ne fonctionne pas, passez à la troisième. Vous allez être capable de prendre le contrôle, être proactif et vous reprogrammer. Non-stop, moins Sam, on a un problème. Notre offre n'est pas assez dispendieuse au travail. On va aller lire un livre. One Million Offer de Alex Hormozi. Problème, réaction, solution.
100.
C'est quoi j'avais dit?
One million.
Fait que, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment important. Très problème, clair. Réaction, solution.
C'est bon?
Ouais.
Dernier point. Puisqu'on voulait chacun se séparer des points.
Vas-y.
Je veux parler de... Puis en fait, ça fait clairement relié avec ce que tu viens de dire. Je veux parler de la différence entre la discipline et la motivation. Parce que, puis justement, j'en parlais hier avec une cliente face à ça. C'est drôle. En fait, c'est vraiment hot, même, notre travail. Parce que chaque fois qu'on fait des podcasts, on peut tout le temps dire « j'en parlais hier » puis c'est tout le temps réel. Parce que c'est parce vrai qu'on qu'hier, en parlait hier. Ça. Fait que c'est tellement facile pour moi de le dire. Mais, tu sais, dans le fond, ma cliente, elle vient me voir puis elle me dit... Elle me dit les matins, elle dit je me réveille tout le temps 20 minutes avant de partir. Puis, mettons, exemple, elle travaille à 8, faut qu'elle parte, mettons, je sais pas, à 7h40, elle se lève à 7h20. Mais tu sais, fais le calcul, elle se lève à 7h20. Mettons ton alarme, ça, dans 7h20. Tu te lèves à quelle heure? 7h24, 25, le temps que tu te réveilles un peu. Là, tu te lèves, tu
sors le
rendu 7h26, sors le chien 28. Après ça, il est rendu 29h30, le temps de t'habiller. Puis il est rendu 33, puis t'étais à la presse. Puis là, il est comme, mais j'ai jamais le temps de déjeuner. Mais tu sais, c'est quand on parle de discipline, c'est qu'à un moment donné, c'est faut juste que tu le fasses, tout simplement.
C'est parce ce que tu as
on parle de programmation. Qui viennent nous programmer justement face à des choses qui sont passées. Donc, on n'a pas tout le temps nécessairement le contrôle sur ça tant qu'on n'est pas conscient. Mais à un moment donné, c'est si on laisse tout ça de côté, on oublie tout ce qu'on a dit, là, à un moment donné, c'est une question de discipline aussi. Puis quand on parle de discipline, j'ai donné mon exemple justement à ma cliente, puis je disais, tu sais, voilà pas tant long. Moi, j'ai tendance à faire mes repas, je prépare mes repas le dimanche. Puis je fais ça tout le temps dans la journée, 2, 3, 4 heures. Mettons, ça ne durera jamais 4 heures. En fait, 2 heures, par exemple. Puis dimanche, là, peut-être 2-3 semaines, quand je suis revenu chez nous, j'avais quelque chose toute la journée. Je suis revenu, c'était 8h30, 8h45 le soir. Puis j'avais pas fait mes repas. Puis 99% des personnes, le lendemain, elles ont fait comment? J'ai pas pris le temps. Enfin, non, j'ai pas pris le temps. J'ai pas eu le temps de faire mes repas. Moi, à 9h, j'étais sur le barbecue chez nous dehors pendant que ma blonde après prendre sa douche pour aller se coucher. Je faisais mon riz, mes affaires. J'étais allé me coucher, c'était 10h30. Mais j'étais tellement content parce que toute la semaine, j'avais mes repas. C'est-tu parce que j'ai pas eu le temps? N'importe qui aurait dit j'ai pas eu le temps. Puis je dis pas que je suis le meilleur, c'est pas ça le point. C'est rien que de dire à un moment donné, la discipline. discipline, c'est quelque chose qui se bâtit. Mm. La motivation, c'est quelque chose que tu as sur le moment. Et ce que j'ai à mes clients tout le temps, c'est de dire, quand tu viens me voir dans mon bureau, là, tu manques de motivation, tu viens me voir, whoop, une heure après ça, tu es super motivé, magnifique, OK, là, je sais où je m'enligne.
Pendant 24
heures. Sors du bureau, le lendemain, plus motivé. Ouais. Qu'est-ce qui doit prendre le dessus? C'est la discipline.
Absolument.
Puis la discipline, c'est quelque chose qui se bâtit à force de dire oui à des choses que tu sais que tu dois dire oui et dire non à des choses que tu sais que tu dois dire non. Mm. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de responsabiliser les autres ou de mettre le blâme sur les autres et justement de se responsabiliser nous autres-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on embarque dans des choses comme ça, on est toujours la personne responsable, peu importe qu'est-ce qui se passe, puis peu importe qu'est-ce qu'on fait. Et la discipline vient toujours prendre le dessus. Tu dois bâtir la discipline. Et cette discipline-là, elle se bâtit, comme on a dit, à force de le faire et aussi à force de se développer et d'apprendre et de lire des livres sur le développement personnel, à force d'écouter des podcasts, à force d'apprendre et de bâtir sa personnalité face à ça.
Absolument.
Mais la discipline, c'est l'affaire la plus importante. Et si tu n'as pas de discipline, puis tu acceptes, tu dis oui à n'importe quoi, tu dis non à n'importe quoi, tu t'en fous, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de roadmap, puis tu n'as aucune idée de ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas.
Absolument. Il y avait une affaire, un moment donné, que j'avais entendu, je pense, et j'avais vu ça dans un podcast, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis, tu sais, c'est une phrase qui résonne. Tu sais ce que tu dois faire, fais-le. C'est simple de même. Mais si chaque être humain faisait ce qu'il savait qu'il devait faire, ça irait toujours super bien. Le problème, c'est qu'on procrastine tout le temps par manque de discipline. Puis le monde, après ça, il se dit « je suis pas motivé ». Encore une fois, t'es pas conscient de comment la discipline fonctionne. Mais si, en premier lieu, à place de mettre la motivation comme première ressource pour réussir tes objectifs, ben ça devient la discipline. C'est complètement différent. Mm. Moi, je suis capable de dire que je suis une personne qui s'automotive très facilement. Est-ce que j'ai tendance à avoir des lacunes dans ma discipline? Beaucoup moins qu'avant. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore de la programmation.
Ah, mais ça, c'est quelque chose que tu bâtis pour toute ta vie.
Pour
je te dis pas
vie.
Que tu atteins la discipline à un moment donné. Ah, j'ai la discipline, j'arrête. C'est que tu bâtis cette discipline-là.
Absolument.
Définitivement.
Absolument.
Fait que, tu sais, tu viens de dire une phrase que je trouvais quand même bonne, puis je vais t'en dire une autre. C'est, ça a l'air niaiseux, mais c'est ça pareil. Si tu veux changer, tu dois changer. Genre, si tu veux changer quelque chose, tu dois changer quelque chose. Les gens viennent nous voir, et puis, en fait, justement, regarde, on finit un peu là-dessus. Là.
Ah, j'aime donc bien ça, ce que tu viens de dire. Clients. C'est simple, mais c'est con.
Ben c'est ça, mais check bon. Ça justement. J'avais trois exemples de mes clients, OK? Puis check ça. Ma première, une première cliente qui vient me voir, c'est des exemples de programmation justement. Elle vient me voir, puis écoute, dans le fond, j'ai parlé au téléphone, j'ai eu la rencontre, la quête. Elle vient me voir dans mon bureau, elle rentre dans mon bureau. Je dis salut, ça va, blablabla. Elle me coupe tout de suite, puis là, je suis comme OK. Elle dit juste avant, je t'arrête tout de suite, je veux vraiment être sûr que tu comprennes ça. Elle me dit deux affaires. Elle dit premièrement, j'aime pas cuisiner, fait que moi, je cuisinerai pas. Puis deuxièmement, j'aime vraiment l'alcool, je bois pratiquement tous les jours, puis j'arrêterai pas l'alcool. Elle dit tu peux continuer, vas-y, on part la rencontre. Je prends la porte.
Je t'ai entendu reculer de mon bureau.
Je rentre dans le mur, il y a un trou dans le mur en arrière. Non, mais vrai, j'étais comme OK, mais elle vient me voir parce qu'elle est en surpoids. Elle vient me voir parce qu'elle mange du croche à des troubles digestifs. Puis littéralement, là, c'est multifactoriel, mais probablement les deux causes pour lesquelles elle vient me voir, c'est à cause qu'elle boit de l'alcool puis qu'elle cuisine pas.
Qu'elle refuse cette reprogrammation-là parce qu'elle
a quand on parle de programmation, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est genre ben qu'est-ce que tu veux? Tu sais très bien. En fait, l'affaire, c'est que c'était inconscient. Elle savait très bien que j'allais lui dire qu'il fallait qu'elle coupe ça. Ouais. Fait qu'elle s'est dit, là, c'est son système de défense qui a embarqué. Parce que je vais lui dire, comme ça, pff, mais être safe. Elle savait que je m'alignais là. Mm. Fait que j'ai dit, tu sais, si tu viens me voir, puis tu veux changer, puis tu veux régler tes affaires, faut que tu sois prête à changer, faut que tu changes.
C'est pourquoi ce qu'on appelle sa zone de confort.
Ben,
elle voulait absolument rester dans sa zone de confort en perdant du poids. Fait que, tu sais,
ça a pas de sens.
Perdre du poids sans faire d'effort.
Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier. Deuxième,
si tu
marches rapide. Ça a marché deux mois. Je la vois plus. OK, je la vois plus. C'était vraiment difficile. C'était un cause quoi. On s'en parle.
L'enverra en programmation. Je vais t'en reprogrammer comme
ça. Oh, on a travaillé gros là-dessus, mais tu sais, c'est ça. Deuxième point, ma cliente qui me dit qu'elle n'a pas le temps de préparer. Ben, je l'ai dit. Qu'elle se lève 20 minutes en avance, puis qu'elle me dit j'ai pas le temps. Ah non, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. Elle a un diabète de type 2. OK? Elle a sa glycémie qui est toujours high down. Elle déjeune jamais. Elle est tout croche, puis elle dit j'ai pas le temps de déjeuner. Mais elle se lève 20 minutes avant de partir. Elle travaille à 8. C'est pas comme si tu travailles à 6 heures. Je fais comme OK, au pire, déjeune, puis déjeune à la job, je sais pas. Mais c'est une programmation. Mm. Puis j'ai dit ça fait 25 ans que tu te lèves 20 minutes avant d'aller travailler. Penses-tu que du jour au lendemain, à une seconde, tu vas être capable de te lever 2 heures en avance, tout faire tes affaires? Donne-toi le temps. Mm. Fait que quand on parle de reprogrammer, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Des fois, il y en a que c'est du jour au lendemain. Genre, ma cliente sur l'alcool, c'était ça. sortir.
Ça, c'est des méthodes
chocs. Elle s'en est rendue compte tout de suite. Ouais. Mais des fois, c'est des habitudes que tu dois développer. Mm. Puis une routine, ça prend 30 jours à développer. Mm. Une habitude de vie, ça en prend 90. J'avais lu ça dans un livre de psychologie.
Un point, justement, tu viens de le dire, mais tu sais, la raison souvent du pourquoi le monde ne veut pas être programmé, c'est que ça fait pas encore assez mal. Puis tu sais, c'est con, mais la douleur, ce qu'on appelle la méthode choc, puis Tony Robbins dans son livre, le livre que je recommande en PNL, en passant à tout le monde qui voudrait lire un livre extraordinaire qui est vraiment une initiation à la PNL, Pouvoir illimité de Tony Robbins. Fait que ça, c'est vraiment un excellent livre. C'est une brique, mais c'est vraiment une brique très intéressante et bien, bien, bien écrite. Mais en tant que tel, il expliquait la méthode choc. Puis tu sais, je te donne un exemple très simple, mais si tu prends, admettons, ben en fait, je vais donner un Christy de bonnet choc ici. Un moment donné, puis tu sais, après ça, ils ont starté toutes sortes de publicités polémiques là-dessus, puis tout, là, mais mettons, t'es au restaurant, OK, puis c'est une annonce qui a passé à la TV. T'imagines-tu comment que ça a fucké la planète? Il y a un monsieur avec sa blonde, monsieur et sa belle montre, puis là, il est tout bien habillé avec son veston cravate, puis là, il est autour de la table. Puis là, tu vois le serveur arriver avec son petit bras, puis là, il a son, son menu. Puis là, il dit, qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur? Il dit, ouais, moi, te prendre le filet de porc avec la côte de bœuf. Après ça, on va prendre 6 crevettes, puis tu vas m'amener aussi telle affaire puis telle affaire. Le serveur est comme, parfait, monsieur, suivez-moi. Fait que là, il est comme, hein, OK, il se lève. Là, il suit le serveur. Là, le serveur ouvre la porte. Il suit derrière la porte une chambre blanche complète. Les planchers blancs, le mur blanc, le plafond blanc, c'est juste du blanc à grandeur. Là, tu vois, après ça, il enlève de son bras juste la serviette. Puis il dit, voici, monsieur, il y a un bœuf en avant de lui, direct dedans la salle blanche. Puis là, le monsieur, il arrive, puis il dit, servez-vous. Là, le gars, il est là, non, non, je veux pas me servir, non, non. Il est comme, servez-vous. Non, impossible que je fasse ça. Non, monsieur, ça va être fait dans quelques secondes par quelqu'un d'autre. Fait qu'autant bien être conscient, servez-vous. Que ce soit vous, que ce soit nous. Le gars, tombé de suite vegan, là, c'est sûr, là. Tombé de suite vegan. Fait que, tu sais, la quantité de personnes qui ont dû voir cette annonce-là et qu'à partir de ce moment-là, ils ont enfin réalisé à quel point ça peut, justement, t'as une vache en avant de toi ou t'as un bœuf en avant de toi, il te regarde puis c'est autre, un animal comme ton chien. Mm. Puis là, il dit, prends le couteau et va te servir. Ça, c'est une méthode choc. Puis il y a du monde qui ont vu ça à TV. Puis la douleur de voir cet animal-là souffrir était plus grande que leur plaisir de manger de la viande. Souvent, le monde va tomber vegan. Mm. La personne qui s'en va voir son docteur, que ça fait 40 ans qu'elle fume, que tout le monde dit arrête, que ça nuit dans 6 de ses dernières relations, que ses enfants ne veulent plus rentrer chez eux parce que ça sent trop à top, ça fait pas encore assez mal de perdre des enfants. Mais quand elle arrive en face du docteur puis que le docteur lui dit vous avez 3 taches sur les poumons, vous avez un cancer, puis vous allez devoir commencer à faire de la chimio, elle va arrêter de fumer. Mm. C'est fou, mais
les gens attendent la dernière minute.
Ils tombent dans le gouffre, bien comme du monde, puis après ça, ils veulent se prendre en main. C'est pareil avec nous autres. Dès que les gens, il est trop tard, puis qu'ils tombent en bas du gouffre, puis qu'ils ne peuvent plus remonter,
c'est là qu'ils viennent
ils viennent nous voir. Ils veulent changer.
Je termine avec un dernier exemple.
Vas-y. Après ça, on va mettre fin.
Oui, ben c'est ça, exactement. Ça va faire pas mal une heure. Une cliente qui était venue me voir, ça, c'est quand même assez récent. Puis, dans le fond, c'était. Moi, j'ai su au niveau d'alimentation, parce que je suis par une coach de course, en tout cas à l'extérieur de la clinique. Puis, dans son programme de course, la coach, dans le fond, lui avait demandé « Est-ce que tu veux que je te mette des pentes, des inclinaisons, parce que quand tu avais couru telle affaire? » Puis, elle a dit non. Fait, j'avais dit « pourquoi tu veux pas des pentes? C'est quand même cool, ça met un challenge. » J'avais dit « Non, justement. » J'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle a dit « Ben, je voulais pas avoir mal, je voulais pas souffrir, je voulais pas avoir mal aux jambes. » J'étais comme « T'as pas te dit à ta coach, je veux pas de pente parce que tu voulais pas souffrir. » Elle dit « Ouais, c'est vrai ça. » Elle dit « Quand je cours, je travaille pas tant. Là, je cours, mais très, très lentement, puis je veux pas souffrir. » Fait qu'elle, à chaque fois qu'elle s'entraîne et qu'elle ça lui demande un effort supplémentaire de ce qu'elle vraiment juste pour dire une petite coche de plus, elle veut pas, elle arrête. Fait que tu sais, c'était une programmation qui était énorme. Fait que quand tu transposais ça sur l'alimentation, si je lui demandais des efforts de faire sa bouffe, de faire essayer de préparer ses repas, elle le faisait pas, c'était trop difficile.
C'est fou parce que tu sais, on voudrait aider tout le monde, mais on peut pas.
Ben non, mais c'est ça. Puis elle, dans le fond, ce que je disais, c'est apprends à aimer la peur, pas aimer la peur, c'est pas le bon terme, mais apprends à passer au travers de cette peur-là. Puis apprends exactement à t'endurcir, à aimer le fait d'avoir mal jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, ça devient une habitude. Mais elle a tellement tout le temps des programmations nuisibles qu'à chaque fois qu'elle dépasse un petit peu sa zone de confort, c'est comme non, 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 j'en veux pas. Mais moi, j'ai dit sa coach. Moi, elle va être sa coach. Qu'elle me dit non, j'en veux pas, j'aurais dit pourquoi. Elle m'aurait dit je veux pas souffrir, j'aurais dit c'est sûr, je t'en mets. Sinon, on va voir quelqu'un d'autre. C'est sûr, je te mets ça. Faut que je te sorte de ta zone de confort. Sinon, pourquoi tu viens me voir? Fait que, anyway, je pense que je comprenais.
Si tu veux changer, change.
C'est ça. Pour changer, tu dois changer.
Exactement.
Je pense que ça fait le tour pas mal.
Ça fait vraiment le tour. Honnêtement, on pourrait littéralement parler pendant 10 autres sujets.
On va vite parce qu'on veut clencher ça à peu près dans
une heure. On veut clencher ça en moins d'une heure. Mais honnêtement, sujet vraiment intéressant. Merci énormément d'avoir été avec moi. Ça a vraiment été un méchant beau podcast. Fait que, guys, on va fermer ça ici. Merci énormément d'avoir été présent. S'il vous plaît, si on vous a donné du contenu et si ce qu'on vous a dit vous touche vraiment ou vous avez appris quoi que ce soit, laissez-nous un 5 étoiles, partagez-le à des amis, faites en sorte d'en parler, s'il vous plaît. C'est notre système de paye, c'est comme ça, on vous donne du gros contenu. Fait que, s'il vous plaît, parlez-en, partagez le podcast et surtout, laissez-nous, prenez un 3 secondes de votre temps, programmez-vous à aller encourager les entreprises et les personnes qui vous donnent beaucoup. Fait que, allez nous faire un 5 étoiles, s'il vous plaît.
Merci, gang.
Merci, gang.
Passez une belle journée.
Je tiens à spécifier une chose. On est une équipe de naturopathes. On n'est pas des diététiciens, on n'est pas des nutritionnistes. Toute la matière qu'on vous partage à l'intérieur de ces podcasts-là, c'est de la matière qu'on a appris d'expérience client et aussi qu'on a lu à l'intérieur de livres. Fait que prenez-la en compte.